France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus. Bonjour Leïla, bonjour Benjamin.
Salut
à la bande. En cette semaine de vacances scolaires, nous vous proposons une sélection des meilleurs moments les plus croustillants de notre émission. L'élite de la BO.
Et ce matin, un grand, un très grand, un très doux aussi de la chanson française, comme le prouve encore son dernier album, pas fini, c'est Monsieur Jean-Louis Aubert, mon
très
amour.
Très doux. Moi, je sais des trucs sur lui, ça fait un peu peur.
Leïla Cadeau et Nadine.
Bonjour Jean-Louis, bienvenue.
Bonjour.
Tout va bien ?
Bienvenue à vous.
Oui, c'est vrai qu'on...
On est chez Jean-Louis.
Bah, on est chez Jean-Louis. On sera avec sa musique jusqu'à 12h30. Dans quelle humeur êtes-vous ? Dans quel état d'esprit ?
C'est une merveille. Il pleut, il y a de l'eau partout. Je vais même baigner tout à l'heure dans la Seine.
C'est vrai ? Mais, non, mais vous êtes très météo ? Dans la vie. Vous faites gaffe à la météo. Non, mais c'est vrai, parce que déjà tout à l'heure.
Non, mais ce matin, ils m'ont pris la tête pendant que je m'habillais en disant qu'on allait être inondé. Alors voilà, j'ai peur.
Ouais, c'est vrai que vous habillez en public. Mais j'adore. Hein.
Je me déshabille aussi en public. Alors, je voulais voir.
Tous les jours, nous demandons, nous faisons un tour de table pour savoir dans quel état d'esprit, dans quelle humeur nous sommes tous les uns et les autres autour de cette table. Mais là, on va prendre une humeur Jean-Louis Aubert. Lisa Delmoitier.
C'est un autre monde.
Un autre monde, c'est ta référence.
Il n'y a pas de tempête déjà.
C'est une chanson triste ou c'est une chanson positive, Jean-Louis, un autre monde ?
C'est une chanson très positive, il me semble.
Mais qui constate...
Mais très fédératrice.
Mais qui constate aussi un état des lieux pas formidable, quoi. C'est-à-dire que on souhaite...
Tous les partis politiques me l'ont demandé, donc ça doit être positif, normalement.
Okay, Emma ?
Moi, c'est la bombe humaine.
D'accord.
Ouais. En toute humilité, bien sûr. Hein.
Oui, bien sûr.
Non, parce que je me suis réveillée avec le syndrome de l'actrice principale ce matin, c'est-à-dire que en fait, je suis l'actrice principale du film de ma vie. Donc voilà, ce genre de musique, pour moi, ça aide à marcher dans le rôle principal. Voilà.
C'est beau. C'est beau. Tu la
tiens dans ta main. Et t'as tout compris la chanson ?
Non, mais c'est ça. Ah oui, mais parce qu'on l'avait étudié, moi, quand j'étais à l'école.
C'est vrai ?
Ouais, ça m'avait aidé à pécho, d'ailleurs, en cours de chorale. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais pour de vrai, ouais.
Le point de départ, c'était ne vous laissez pas récupérer ou manipuler par les autres.
Soyez on est manipulé, il faut juste en être conscient.
Ah, ouais. C'est pas soyez maître de votre destin ?
Ah bah si, c'est ça, mais regardez les fils. C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs voir un peu quels étaient les fils de la radio.
Bruno Becchi, si t'avais un titre
de... Moi, c'est Enfant perdu.
Enfant perdu.
Super.
M'entends-tu ouais. Je suis l'enfant perdu.
Un message ?
Ouais, parce qu'en fait, c'est ce que je dis dans la maison de la radio quand je trouve pas les tubes dans l'air, quoi. Donc, c'est ça qui résonne dans ma tête.
Petit Bruno. Et plus sérieusement, pourquoi ça va ?
Non, c'était vraiment pour la blague et aussi parce que j'aime bien la musique. Voilà, et que c'est du dernier album. C'est aussi du dernier album, donc moi je fais mon taf, quoi, contrairement à Lisa.
Un peu l'élève. Voilà,
allez. Comment elle est née cette chanson ?
À Pizzeria en face de chez moi, ils écoutent tout le temps Tame Impala. Et j'avais envie de faire une chanson comme ça et les paroles sont venues un peu avec un sens que je pensais toujours cet enfant qui parle en moi qui m'a amené sur la route de la musique. Et en même temps, j'ai l'impression, plus j'écoute la chanson, plus il y a quelque chose dans mon destin, avec ma maman et tout ça en ce moment, qui m'interpelle. Mais il y a pas mal d'inconscient dans mes chansons, ce qui fait que je continue à les aimer parce que je découvre des choses que j'y avais pas mis avec toute ma raison.
Et avec toujours un regard d'enfant ? Souvent,
ce regard d'enfant, il est plus adulte que vous croyez, parce que je pense que c'est quand on se croit un adulte qu'on est vraiment un enfant. Et moi, je me crois un petit peu enfant, c'est pour ça que je vois en vous l'enfant, et je vois quelquefois quand vous mettez un beau costard, une belle bagnole ou un gros pouvoir, que vous êtes un peu cucu, quoi.
Leïla, quel titre de Jean-Louis ?
Moi, c'est bien sûr mon titre.
Oh là là, Leïla. Tu me fais des frissons.
Bien sûr, mon amour, presque arrivé.
Et pourquoi ?
Bien sûr, mon amour, il faut pas douter. On sait. s'aime si fort ensemble, on va gagner.
Parce que c'est la plus belle chanson.
Et d'où elle vient alors celle-là ?
Là, elle me fait pleurer.
C'est toi qui as commencé.
C'était dans une crêperie.
Non, c'est un peu... C'est pour mon amoureuse, mais c'est un peu le guide de haute montagne, tu vois, j'ai un peu tordre la cheville et tout ça. Et puis, c'est le chanteur, il est un peu comme ça. Et puis il dit, non, relève-toi, on est bientôt arrivé, mais en fait, il est pas sûr.
C'est là où on voit que toutes les chansons n'ont pas à être expliquées, des fois.
Ouais, parce bien. Que... Ouais, c'est bien. Un peu de mystère, c'est pas mal.
Non, vous comprenez rien à mon explication.
Non, rien.
Mais si, c'est...
T'es juste en train de pourrir la beauté de la chanson.
Mais non, pas du tout. Mais pas du tout, c'est... On va y arriver, mais pourtant le chanteur lui-même n'est pas complètement sûr, ouais. Mais on donne de la force.
De l'espoir.
Tanguy Pastureau aussi, il y avait un titre à retenir de Jean-Louis.
Tant à nouveau, moi j'aime.
Tant à nouveau.
Ouais.
C'est l'une des premières en solo ?
Oh non. C'est troisième album.
Troisième album ?
Mm-hmm.
Et celle-là aussi, quand, avec des jeux de mots. Alors, toi, elle évoque quoi pour toi, Tanguy ?
Bah, l'idée du fait qu'on peut reprendre quand on veut sa vie un peu à zéro, quoi. Il suffit d'en décider, de se lever un matin et de se dire allez hop. Puis on est parti sur autre chose.
J'adore le passage de la nouvelle émission. C'est-à-dire que d'un coup, on se remet à émettre. Ce qui prend du sens.
Mais quand même, lorsque le monde implose, ce n'est qu'une nouvelle émission. Ouais. C'est exactement ce qui se passe de nos jours. On est un peu spectateur, on nous dit des trucs, ça rentre pas. Et on se demande quand est-ce qu'on fait le petit pas, mais individuel, pour faire un vrai mouvement mondial. Ça viendra pas d'un parti politique, je vous assure. Hein.
Non, ça, tu nous rassures, c'est sûr.
Non, je vous rassure pas, je vous assure.
Hold de laugh.
Moi, ce serait New York avec toi. Donc, soit aller à New York avec Jean-Louis, ça c'est une belle option.
Cool.
Ou sinon, carrément New York avec toi, Ouran.
Bon, on vous laisse.
Et Daniel ?
Moi, pour des raisons aussi tristes qu'hygiéniques, c'est l'hygiophone.
parler dans l'hygiophone. T'as pas besoin de sonner. Demande à l'interphone.
Parce que
c'est d'une tristesse infinie. Maintenant, on est obligé de parler des gens de plus en plus loin d'eux. Quoi. Avant, c'était l'hygiophone, ils n'étaient pas loin derrière.
C'est revenu à la mode pendant la Covid.
Ouais.
Je ne sais pas pourquoi on dit de là, d'ailleurs.
Surtout, cette notion d'il y a toujours quelque chose entre, il y a toujours un outil, et on est en 80 et quelques, c'est-à-dire qu'elle a quand même plus de 30 ans, cette chanson, est toujours d'actualité.
On communique, mais moins en moins près des autres.
C'est ça.
Grâce au téléphone, on a réussi à casser la vitre. C'est en 76, cette chanson.
Mais non.
Ouais. J'avais 8 ans.
Il y a un nouvel album, évidemment, qui s'appelle Pas fini.
C'est quand ça commence.
On va y aller. Hein.
Comment ça commence.
Tiens, exactement ce que
c'est
je dis.
C'est où ça commence. C'est quand ça commence.
Eh bien, l'émission va commencer maintenant avec l'un de vos fans, mais ils sont nombreux autour de cette table. Voici Hold de Laugh, et il n'est pas seul.
Je suis fan de Jean-Louis Aubert. Je suis fan depuis les soldes d'hiver. On a ici une légende du rock français. Ça doit vous faire quelque chose de me rencontrer. Je suis fan de Jean-Louis Aubert. C'est la gloire quand t'as ta propre station, le RER. Il chante puisque je suis mon aquarium. C'est ça quand t'écris en mangeant de la tarte au pium. Et vous êtes là pour votre album pas fini. Ça veut simplement dire pas fin en Italie. C'est comme un album Panini mais sans photo. Du coup ça sert à rien, c'est plutôt pas fino. Je suis fan, fan de Jean-Louis Aubert. De manière générale, j'aime tout ce qui est au beurre. On a hâte des concerts au Zénith et l'Arena. On peut peut-être vous aider à chanter un truc là-bas.
D'accord.
Yeah. Un jour, j'irai chez Nagui et Leila, parler toute la matinée. Toutes les chroniques de Tanguy et Lisa, il va falloir se les taper et pleurer. Un jour j'irai là-bas. Un jour chante un autre rein. Voici le cœur de la ville bas en toi. Et tu m'emmèneras. Un jour emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Un jour, m'emmène-moi. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Yeah. Incroyable.
S'il vous plaît, faut que tu présentes ton groupe.
Bah, évidemment. Excellent. Bah, voilà, c'est les gars qui m'accompagnent en tournée. Il y a Victor,
bravo.
Alexandre, merci. Et puis Ben qui
bravo,
est là.
Bravo,
voilà.
Bravo,
la quintessence du rock.
C'est beau, c'est rock.
Il a fallu qu'on attende d'avoir Jean-Louis Aubert comme invité pour qu'il s'applique, mais bon. Mais tout arrive.
De la... On parlait du live et il sera en tournée en 2025, Jean-Louis Aubert. Ça commencera le 14 février à Aix-en-Provence. Ensuite, il y aura le 15 février à Lyon, le 21 février à Bordeaux, le 22 février à Nantes. L'un des défis, Jean-Louis Aubert, quand vous faites ce nouvel album, c'était de trouver des sons, une manière de travailler actuelle, sans pour autant perdre la sincérité, l'ADN, ce qui fait le son, Jean-Louis Aubert.
Demandez à un artiste qu'il a voulu faire, il va toujours vous inventer une histoire.
Inventez-moi une histoire.
On vous écoute.
En fait, je m'intéresse à des trucs nouveaux, mais voilà. Et après, comment je peux faire pour rester moi-même tout en jouant avec mes nouveaux jouets. Mmh. Et voilà. Et c'est comme ça. Et c'est vrai que le fil peut être coupant parce que des fois, tu te dis ah ben non. Il y avait des fois, je faisais des maquettes où j'avais des Charleston de trip hop et tout. Et quand je réécoute, je dis oh putain, oh, je l'ai échappé belle. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a eu un moment où j'ai dit oh, bah la musique. Alors, récente, là, il n'y a plus de pont, il n'y a plus de machin. C'est bizarre, ils ne changent plus d'accord. Puis après, je me dis, ah, mais c'est toi le vieux con, ouvre tes oreilles. Et en fait, un moment, il y a un océan de musique sur le net et tout ça. Et donc, il y a plein de trucs à découvrir. Et donc, moi, j'ai un appétit toujours pour ce qui se fait, ce qu'on entend. Voilà, mais il faut fouiller parce que ce n'est pas que des choses qu'on entend sur les grandes radios, pardon.
Non, mais comment ne pas se faire avoir aussi.
Comment découvrir
En évitant de copier, comment on s'en sort quand on crée, en écoutant.
Voilà, on appelle l'album pas fini, on se casse la gueule plusieurs fois en faisant des trucs qui riment à rien, mais aussi c'est avec le regard de gens autour de moi, quoi. J'avais un gars très jeune qui s'appelle Elliot, qui est vraiment un génie, donc lui il est arrivé avec...
Dans la prod et qui vous a aidé
il a 26 ans, donc il me faisait écouter de nouveaux trucs, là, parce qu'il me disait, ce son ça date des années 2000, je disais, c'est hier. Il dit, non, c'est pas hier, c'est quand je suis né, moi. C'est ouf, tu vois, c'est ouf, ouais. Le temps maintenant, voilà, ça progresse très vite pour moi.
Et comment vous découvrez de nouveaux morceaux, de nouveaux artistes qui passent pas sur les grandes radios, justement? Parce que ça, c'est j'ai l'impression que c'est une telle jungle, et c'est joyeux d'ailleurs, qu'il y a tellement de choses.
Ah, c'est magnifique, mais c'est à la pizza en face de chez moi. Ah non, mais ils sont hyper forts.
Ah ouais.
Le directeur, c'était le manager de Daft Punk. Je veux dire qu'il embauche des mômes qui sont passionnés de musique. Et
tu viens le jour, tu viens la nuit, au fond de mon puits, comme une chanson qui guérit.
Ça sert à quoi une chanson?
Je ne peux pas m'empêcher.
Des fois, j'aimerais bien que ça guérisse. Moi, ça me guérit, ça c'est sûr. D'ailleurs, ce petit riff de guitare, c'est un truc, quand je m'ennuie, quand je suis un peu, j'ai vague à l'âme, je joue ça. Et j'avais dans mon carnet écrit la chanson qui guérit depuis longtemps. Mais en général, je pense à des gens que je voudrais guérir, pour ça, mais ça marche pas sur eux. Mais des fois, un bon petit concert ou une chanson, c'est arrivé que ça cautérise des plaies, ouais, soit psychologiques, et quelquefois même des choses physiques. Mais je suis pas encore chaman tout à fait. Mais je m'entraîne.
C'est ça, c'est une bonne fois. Nouvel album pas fini de Jean-Louis Aubert, Lisa Delmoitier. Là, elle aurait pas fait ça. Vous n'avez pas fait un album comme ça,
non? Je n'aurais pas fait l'album comme ça, mais je vous admire trop, Jean-Louis Aubert. Vous êtes vraiment un génie, quoi. Je vous préviens, je vous pique votre titre d'album pour toutes mes chroniques. Voilà. Comme ça, si les gens trouvent ça nul.
Enfin, fini, les gens c'est plein d'espoir, en fait. Hein. C'est voilà, plein d'espoir. C'est un peu de frustration.
Je vous la pique. D'ailleurs, cette chronique, je vous préviens, elle n'est pas finie. Hein, comme ça, vous pouvez lâcher vos commentaires. Trouvez-vous une vie. Mais, mais plus que votre album, c'est vous, Jean-Louis Aubert, qui n'êtes pas fini.
Oui, tout à fait.
On dirait que je vous insulte.
Non, ouais. J'aime bien.
Ok, c'est bien. Alors. Non, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que vous allez fêter vos 50 ans de carrière et vous pourriez vous reposer sur vos lauriers, mais non. Vous revenez avec un nouvel album et toujours la même niaque, quoi. Même quand l'acné... Quoi ? Qu'est-ce qu'elle elle bug ?
L'acné.
J'ai dit, c'est pas fini. Même quand l'acné est morose. Non. Pour moi, vous avez toujours représenté une immense joie de vivre et je voudrais juste vous demander comment vous faites. C'est quoi votre secret ? Soyons honnêtes, rien que sur le débit de parole, tu demande aux auditeurs lequel de nous deux va sur ses 70 ans. Je crois qu'il commence à accrocher la banderole « Joyeuse retraite, Lisa ouais. !» En fait, moi, j'ai l'impression que pour rester positive, je dois me couper du monde. Je jure, quand j'ai besoin de déconnexion, je demande qu'on plonge dans le coma. C'est l'étape au-dessus du mode avion, voilà. Mais après, je veux quand même être au courant de ce qui se passe autour de moi. Mais alors, je lis des articles sur la Palestine et le Liban et ça me plombe. Sachant qu'en plus, il y a l'inflation qui fait s'envoler le prix des matières premières et quand je vois le prix du plomb au kilo, ça me plombe encore plus. Enfin bon, c'est sans fin. Mais vous, Jean-Louis, vous parvenez à rester un engagé optimiste, à vous garder et la révolte et le sourire. Alors je me suis demandé comment rester comme vous émerveillé. Mm-hmm. Merveille qui est votre dernier single écrit dans votre havre de paix dans le sud, ce qui m'amène à mon premier conseil pour garder la pêche, avoir un havre de paix dans le sud. Ça aide quand même. La petite villa le régale. Hein.
Non, je ne sais pas si havre va très bien avec sud. Mais...
C'est vrai. Tu peux pas déprimer quand t'entends le son des grillons. Hein. Aucune nouvelle n'est vraiment grave et même les gens qui essaient de te foutre le cafard, même eux ils y croient pas vraiment quoi. Chérie, je te quitte. Bon, demain matin, on va faire une chose. Bon, cela dit, tout le monde n'a pas de refuge dans le sud, mais on s'adapte. Moi, à Paris, quand j'ai besoin d'un endroit calme où il n'y a personne, je vais dans un magasin de location de DVD. C'est tranquille, hein. Il y a juste moi et le proprio qui martyrisent une poupée vaudou à l'effigie de Netflix. Donc voilà, petit conseil. Autre conseil pour garder la pêche que vous donnez dans votre chanson Merveille, il faut se véganiser. Tu sens quand même le mec qui a dû se faire opérer à cœur ouvert. Moi, j'ai pareil. Hein.
Un peu, ouais.
Mais moi, j'ai pareil, j'ai trop d'oméga 6, donc il faut que je me calme sur la bidoche, ordre du médecin. Apparemment, t'es pas censé t'appliquer du bacon en cataplasme. Bon. Pour garder le feu sacré, il faut aussi rester rock'n'roll. Hein. Faut être une pierre qui roule. Faut pas amasser de mousse, à part celle de la bière. Voilà. C'est un jeu de mots rock'n'roll. On peut le jeter à la poubelle. Et être rock'n'roll, ça veut dire quoi ? Ça vient de l'argot des années 20. Ça voulait dire, en anglais, danser et faire l'amour. Ça voulait dire les deux.
Ah bon ?
Et je suis d'accord, c'est pareil. Hein. Je veux dire, dans les deux cas, j'adore quand je suis dans le moment, mais si après je me rends compte que quelqu'un avait filmé, j'ai envie de crever. Je vous jure, moi je baisse.
Pourtant, j'ai vu une vidéo, elle était bien.
Ouais.
Allez Lisa. Alors,
ça c'est le bruit de moi qui n'ai pas de répartie. Alors du coup vous l'avez constaté, je baisse comme je danse. Sur le moment je suis convaincue de faire la salsa, mais quand je me regarde après on dirait que je fais de la tectonique quoi. Pourquoi il envoie ses bras dans tous les sens, il convulse. Ce qui m'amène à la dernière clé que j'ai trouvée dans votre album pour tenir le cap, au-delà du rock, ce dont on a tous besoin, c'est de musique, car elle guérit. Bon, pas littéralement, hein. Dr. Dre a jamais rien pu faire contre le tétanos, mais elle adoucit les peines, elle donne envie de se réunir et puis de se bouger. En tout cas, c'est l'effet qu'a eu votre dernier album sur moi, et si cette chronique vous a pas plu, sachez qu'elle est pas finie.
Merci.
Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Du rock and roll.
Alors oui, il y a les sons, oui, il y a la musique, oui, il y a les gimmicks, il y a les mélodies, mais il y a aussi ces textes et ces formules et ces phrases qui sont comme des pensées, comme des slogans. Par moment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous arrivez à trouver en une phrase.
Il a cet art de la formule.
Exactement.
Qui, tout d'un coup, on voit un visage, un paysage, une situation, une époque.
Merci.
C'est vrai.
Je sais pas.
Non, mais vous aimez ça, vous aimez les jeux de mots, vous aimez.
Ah oui, j'adore. J'adore.
Ouais. Vous aimez jouer avec une phrase que je vous ai entendue dire en disant que le sourire c'est le bonheur qui vous pend au nez.
Le bonheur qui vous pend au nez, mais ça c'est vraiment une vérité.
J'adore ça.
Dans Paris, ça marche. En plus, quand vous avez un peu de notoriété, c'est encore mieux, mais ça marche. Mais en fait, avant, il y avait le langage des troubadours. Quand j'étais en URSS, juste avant la chute du mur aussi, dans les chansons, quelquefois, on se sert de jeux de mots pour envoyer des messages, quoi. Ça s'appelle le langage des oiseaux et c'est un truc un petit peu ésotérique, mais plutôt marrant. C'est des jeux de mots. Mathieu Chédid aussi est très très fan de ça.
Sauf que, il y a toujours du sens. C'est pas jouer simplement avec les mots, aussi faire passer des valeurs qui sont régulières, surtout vos albums. Vous avez été l'un des premiers à évoquer la planète, l'écologie. Là, on est...
Le mot vert n'existait pas à l'époque. Mais moi, j'étais daltonien en même temps. Donc,
c'est vrai.
Bleu, blanc, vert, voilà. Moi, je voulais l'appeler bleu, blanc, rouge, mais je me suis trompé.
C'est ballot. Non,
mais
c'est ballot.
Mais c'est marrant parce que les artistes, ils ont le temps d'observer, quoi. En fait, vous nous donnez la béquille, vous nous nourrissez pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire. Et il y a des choses qui arrivent sans qu'on en soit vraiment conscient.
Sauf que vous les voyez avant nous, par moment. Les plages, en l'occurrence, sur les mouvements migratoires et sur ce désespoir à risquer sa vie ou à être exploité par des passeurs en rêvant d'un monde meilleur. L'écologie, la manière aussi, la bombe humaine, c'est ton destin, tu l'as entre tes mains, te laisse pas manipuler, tout ces choses-là qui peuvent paraître, même si la bombe humaine a pris un autre sens, malheureusement, avec l'actualité, mais la manière dont vous trouver les expressions, les angles. Moi, je trouve qu'au contraire, vous anticipez, vous êtes en avance sur la société, plutôt que de dire « je me nourris de ce que vous donnez ».
C'est un peu comme les cartomanciennes. C'est quand on se retourne qu'on le voit. Et par exemple, dans les chansons, moi aussi, je vois des choses, mais je ne l'avais pas vu à l'époque, je l'avais juste senti. Et voilà, puis, je sais pas, quand j'étais en Yougoslavie, un journaliste qui m'a décollé du sol parce que je disais qu'il y avait des gens qui buvaient du thé avec des gens qui ressemblaient à des Autrichiens, que je trouvais ça super. Le mec m'a décollé du sol. 2 ans après, il y a eu la guerre. J'ai dit, c'est pour ça, en fait, il m'a décollé du sol et on n'arrêtait pas de se bastonner dans ce pays. Et voilà, et quand j'étais en URSS, j'ai vu la chute du mur, mais j'avais pas compris. Donc tout s'explique, c'est vachement facile de voir. Et dans les chansons, c'est pour ça que je les aime, parce que je vois les choses du futur qui se sont passées dans l'écriture de la chanson, mais à l'époque, je ne savais pas. La bombe humaine, pour moi, c'était plutôt de la science-fiction. Et en fait, ce n'était pas de la science-fiction.
De la basse,
non, c'est le plus grand bassiste du monde.
Ça tourne, elle tourne cette basse.
C'est Laurent Werneret, c'est la folie ce mec. Et il était tellement content de jouer à ces deux musiciens de studio et on leur demande maintenant des trucs traités de. De se laisser aller. Et d'ailleurs, à la basse, il y a même des riffs de guitare on a mis de la saturation sur sa basse et ça faisait des riffs de guitare.
Au mix, elle est devant la basse.
Ouais, grave. elle était trop belle.
Commencer un album pas fini par c'est quand ça commence et le finir l'album par tout y est. On est dans la vanne, on est d'accord là aussi. C'est pas un hasard, tout ça.
C'est du Jean-Louis, quoi.
Les chansons étaient là et je me suis dit non mais les choses sont là, puis tout d'un coup je me dis tiens, ça tombe bien, mais en fait l'album est pas fini.
Et c'est vrai que l'expression c'est pas fini est extrêmement positive. Il y a un côté ça va
c'est continuer. C'est bourré d'espoir, en fait.
Il y a le côté aussi c'est pas bientôt fini, avec
il y a de la frustration. Ma maison de disque, alors c'est quand? Je répondais toujours c'est pas fini, c'était le mot qui arrivait le plus souvent pour la réalisation de l'album. Mais en même temps J'adore me penser pas fini, penser que cet album n'est toujours pas fini, il y a d'autres chansons qui arrivent, la tournée n'est pas finie, le Never Ending Tour de Dylan.
Le positif, le pas fini, il y a le côté en construction, mais il y a aussi le côté malfaçon, c'est-à-dire c'est pas fini quoi, c'est pas...
Quand t'arrives ton appartement, tu dis ah non mais ça va pas du tout comme on avait fait, le gars se retourne, dit non mais c'est pas fini. Et ça te donne de l'espoir.
On sent le vécu.
Je suis l'enfant perdu. Je sais pas ce qu'elle veut dire celle-là.
Perçois-tu?
Ça me fait un peu frémir.
Elle est un peu inquiétante.
C'est menaçant, ouais. Tu es
devenu. Parce que j'ai l'impression que des choses d'un peu dures qui me sont arrivées ont fait de moi ce que je suis. Et que je vais un peu sur Nietzsche. C'est que des fois, des choses qui paraissent pas bien donnent des choses bien. Et des choses bien donnent des choses pas bien. Si j'avais été peut-être plus pris dans les bras, j'aurais essayé de faire plaisir et je serais pas en train de faire de la musique ou d'être invité.
Il y a une scène
bande.
Il y a une scène très très touchante dans un documentaire dont on va parler tout à l'heure avec sa réalisatrice Sophie Lesage, qui est presque la déclaration d'amour de votre papa.
Ouais.
Ça c'est bouleversant. Sous-préfet, on peut imaginer.
L'ancien,
ouais, puis l'ancienne école.
Et c'est ce qu'il y a dans cette chanson, justement. Quand je me retourne, oui, je peux avoir l'impression que tout était écrit à l'avance. Mais évidemment, quand je le vis, pas du tout. Mmh. Et c'est ça qui est un peu curieux. Regardez vos vies à vous, vous verrez que tout vous amène à ce que vous êtes.
Ouais.
L'autre fois quelqu'un me disait oui mais si on change d'avis ou qu'on se rebelle, c'est contre ce qui est écrit à l'avance. J'ai dit oui mais ça aussi c'est écrit à l'avance.
Jean-Louis Aubert, notre invité jusqu'à midi et demi. Et voici Amandine Lourdel. Très bien, toi.
Ça va. J'ai une pote en ce moment qui n'arrête pas de me conseiller le polyamour. Alors, quelques chiffres avant de commencer. Une personne sur 9 se serait déjà engagée dans une relation polyamoureuse. Une personne sur 6 aurait le désir de s'engager dans une relation polyamoureuse. Et une personne et demie sur 2 qui passe ses soirées devant des sondages sur le polyamour souffre de solitude chronique. Et franchement, quelqu'un qui te conseille le polyamour quand toi, ça fait des mois et des mois que t'as vibré pour personne parce que t'as le cœur en granit depuis ta dernière rupture, ça fait clairement l'effet d'un multipropriétaire foncier qui dirait à SDF « Attends, t'as pas de résidence secondaire, toi ? Même pas un petit appart au ski pour t'aérer la tête, mais tu devrais, ça fait un bien fou !» Les polyamoureux, en fait, c'est l'aristocratie des relations humaines, quoi. Attention, de base, j'ai rien contre les schémas relationnels novateurs, j'ai fait un conservatoire de théâtre. Et là-bas, les amours sont aussi libres que la pilosité. Notre devise, c'était un amant par jour, une douche par semaine. À l'époque, j'avais la levrette communiste et la moustache de Staline. On partageait tellement tout qu'une fois, on a monté une performance autour de la mythologie grecque, et ben le mec qui faisait le rôle de Jason a refilé des morbacs à tous les argonautes. Je peux te dire, ça se grattait la toison d'or entre deux Alexandres. Je tremble qu'un discours, hélas, trop véritable, ça me démange sa mère qui sait qu'à la pommade. Heureusement, moi j'ai rien eu parce que je faisais le rôle de la proue du bateau. Mon costume, c'était deux planches et un masque en bois. Alors, j'ai pas eu de morpion, mais j'ai eu des termites. Le polyamour, c'est touchy comme sujet, quand même. À cause de ça, cet été, un mariage champêtre, je me suis embrouillée avec un mec qui avait une tête à faire de la phobie administrative. Il avait les cheveux peroxydés, une chemise vintage à motif et apparemment plus de tatouages que de second degré. Je lui ai dit, t'es polyamoureux, toi, non? Il m'a dit, ouais. J'ai dit, j'en étais sûr, j'aurais dû faire sociaux. Appelle-moi Bourdieu, remets-moi un mojito. Il a précisé, enfin, moi j'ai envie d'ouvrir notre couple, mais ma copine n'est pas encore assez déconstruite, on en parle beaucoup. Ouais, d'accord. C'est juste un mec qui a envie de tromper sa copine et qui lui envoie des liens de podcast féministes pour justifier qu'il n'y a pas que le patriarcat que t'as envie de démonter. T'as beau mettre du vernis sur tes actions et sur tes ongles, ça fera pas de toi un mec bien, Rodrigue. Le lendemain, j'ai vu dans le livre d'or, il avait écrit « Un mariage très réussi, sauf le plan de table ». Je me suis dit, voilà, j'ai eu tort. Bah, s'il écrit dans le livre d'or, c'est qu'il ne fait pas de phobie administrative. Et mes potes qui sont polyas, parce que c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Ah, wow. Il m'a expliqué qu'en général, t'as le couple socle et les aventures à côté. Mmh. Hein, sauf que mes potes, ils disent pas des aventures, ils disent des capsules. Oh. Parce que ça sonne plus Théâtre de la Colline.
C'est vrai.
J'ai même une pote qui appelle ça ses moments suspendus.
Oh, wow.
Moi, j'appelle ça juste Anne-Sophie. T'as pécho le bassiste à la fin du concert parce que tu sais que le jeudi, Tanguy rentre plus tard du padel. Restons lucides, tu n'as pas tissé la toile de tes amours, t'as juste déroulé du câble XLR. Attends, j'ai même des potes qui font des partous bienveillantes. Alors, qu'est-ce que c'est une partous?
Qu'est-ce que c'est?
Ah ben ça, on oui, a hâte. Savoir. Alors,
c'est comme une partous normale, sauf qu'avant de commencer, il y a un tour de table. Pour savoir pourquoi on est là, bah, il me semblait que c'était assez clair. Hein, le problème, c'est que comme tous les mecs ont déjà le barreau, ça fait séance de spiritisme en même temps. Ah, mon verre a bougé, il y a Simone de Beauvoir qui veut entrer en communication. Non, non, t'inquiète, c'est juste le chibron à Patrick qui fait tanguer la table. Et le truc qui est relou, c'est que mes potes, ils essaient toujours de me convaincre que je devrais m'y mettre aussi. Ils font un peu du prosélytisme polyamoureux. Ils font le djihad du cul, en fait. Alors, c'est peut-être un peu à l'ancienne, la monogamie, mais moi, je vois pas l'intérêt de tromper quelqu'un si la personne est d'accord. Mm. Surtout que, bon, moi, à la base, je suis d'obédience catholique. Intrinsèquement, ce qui m'excite le plus, c'est la Sainte Trinité, culpabilité, confession, flagellation. Genre, franchement, c'est quoi l'idée du polyamour, en fait? Être heureux? La flemme. Merci d'avoir écouté.
Merci. Amandine Levesque. Vous êtes bien dans la bande originale, vous serez encore mieux après Léonie Bernet, Réparer le monde. C'est Léonie Bernet dans la bande originale avec Réparer le monde, ce qu'on essaye de faire tous les jours d'ailleurs.
Ouais, c'est pas en écoutant ça que le monde ira mieux. Oh là là là.
Regarde là-bas, ils ont l'air aimants, ils ont l'air moins bidons.
L'horizon, la raison, au-delà du jeu de mots, encore une fois. Ce mot revient souvent d'ailleurs dans les paroles de cet album, l'horizon.
Ouais, ouais, il y a toujours.
Comme étant un rêve inaccessible, c'est qu'est-ce que vous lui donnez comme valeur à ce mot, horizon?
putain, même si t'es sous, va vers ton rêve. Essaye au moins une fois, au moins quand tu reviendras.
Sauf que l'horizon, on l'atteint jamais. On a beau aller vers lui et courir
exactement,
après.
Exactement. Moi, je suis parti aux États-Unis avec des 18 ballets. Et ça, j'allais chercher Woodstock. Je me suis aperçu là-bas qui j'étais moi. Et je me suis mis à chanteur français après. Et c'est super, en fait. Donc, c'était un échec. Les hippies avaient disparu. Moi, j'avais plus de chaussures. J'avais envie de vomir toute la journée. Enfin, pour des raisons différentes.
C'est pas le fait d'être pieds nus qui donne envie de vomir. Hein.
Non. Ça peut.
Ça dépend quand tu marches.
Voilà. Et de la même manière, dans mon quartier, j'ai fait. Écoutez, il y a une jeune fille qui s'est mise à pleurer. Et je sentis qu'elle était en train de faire un métier qui. Ça lui disait, tente ta chance, au moins une fois. Ne garde pas toute ta vie. Peut-être j'y serai arrivé. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Essayez, vous verrez.
Sophie Lesage, réalisatrice du documentaire qui passe en ce moment sur Canal, sera notre invitée dans quelques instants. Le doc s'appelle Le Chant des Possibles, mais on va écouter la musique que vous écoutez, Jean-Louis, et vous n'écoutez pas que du Jean-Louis Aubert. En 68, en 68 vous écoutiez des Beatles.
Ah. J'ai décroché, ouais.
Avec ce jeu de mots du LSD, du Lucy in the Sky with Diamonds.
Du groupe le groupe le plus connu au monde qui ose faire des petits trucs comme ça. Et moi j'étais mou, mais je me doutais bien qu'il y avait quelque chose dans Magical Mystery Tour, que c'était pas qu'un truc en bus.
Mais en même temps, personne n'a jamais embêté Laurent Voulzy avec Le Soleil Donne, mais c'est pareil. Il y a toujours le LSD qui est là, mais.
Pas mal. Alors là, j'ai chanté cette chanson, je m'en suis jamais aperçu.
Mais je pense. Pas demande à Laurent.
Mais, ouais, enfin,
mais quand tu vois Voulzy, tu t'en doutes un peu, maman.
Chacun se fait son avis.
Le Soleil Donne. La même couleur aux gens.
Exactement.
On est en 68, Jean-Louis. Vous débarquez à Paris, mai 68.
Ouais.
Pour un gamin un peu rebelle, ça doit être un alignement de planètes.
C'est le triomphe. Les déconneurs triomphent, mais. Et je décroche toutes les photos de mobylettes et de motos que j'avais au mur et j'achète le poster des Beatles en mai 68, le poster de Sgt Pepper's en noir et blanc. Et je le mets dans ma chambre, et après, ma chambre est couverte de photos de vedettes de rock'n'roll.
Et vous êtes plutôt McCartney ou John Lennon?
Lennon.
Oui. Que vous avez rencontré?
Non, mais oui, peut-être dans un couloir.
Dans quel état vous étiez encore?
On enregistrait son dernier album juste avant de se faire assassiner dans le même studio que nous à New York. Et donc voilà, il était en dessous. C'est Hit Factory, ça s'appelait.
Le fait d'être assassiné par un fan, par quelqu'un qui lui demande un autographe, avant de l'abattre, quand on est
Par un fou, plus qu'un fan, enfin un fan fou, mais un fou
quand même. Voilà, ce mot fan, je l'emploie pas. Parce que c'est un diminutif de fanatique.
Ouais, ce que j'ai dit,
Voilà.
Et du danger, donc.
Pas du danger, mais de l'aveuglement. De l'aveuglement, voilà. Courez après votre rêve, mais le serrez pas trop près.
Pas trop fort,
75. En 1975-76, d'un côté Led Zepp interprété Bad Times et de l'autre.
On passe de masturbation à téléphone à cette époque-là. Ouais. De 1975-76, c'est à peu près cette période-là avec Richard
Good Times, Bad Times, c'est vraiment avant quoi. Parce que. Je me souviens, c'est un 45 tours que j'ai volé au Monoprix.
Il y a prescription.
Maintenant, on stream, c'est pareil.
Vous aviez les moyens à l'époque, vous n'étiez pas dans une famille.
Mes parents l'avaient, oui.
Pas d'argent de poche?
Non, j'avais pas d'argent de poche. Enfin, j'avais pas de poche même, je crois.
Je précise simplement, Leïla, pour ceux qui n'ont pas toute l'histoire, que Masturbation était le nom du premier groupe que vous avez formé.
Oui, oui, oui. Masturbation.
Ah bah, c'est mieux.
Parce c'est moins choquant. On cherchait des noms qui se terminent en ion. Ion comme variation, exception. Voilà, comme ça, on pensait que ça serait international. On n'avait pas pensé à téléphone.
Il y avait point d'exclamation.
Point d'exclamation.
Et mais vous en avez commis pas mal des petits vols comme ça là, des petits.
Oui, il y a eu un moment.
Vous y preniez du plaisir.
C'était très très blagueur quoi, mais en fait c'était pas tellement pour voler quoi, mais c'était un peu la dissimulation, se faufiler et tout ça.
Pour défier l'autorité toujours.
Un petit peu, il y avait un petit problème, parce que moi, quand je suis arrivé de province, en province, tout se passait très bien, et à Paris, le premier jour, 2 heures, j'ai pris 9 cols, et c'était ce qu'il fallait pour se faire virer définitivement du lycée, quoi. Donc, je sais pas ce que j'ai fait en 2 heures. Peut-être que j'avais énormément envie de me faire des copains, j'arrêtais pas de parler, je pense.
Et donc, vous avez été viré.
Comme aujourd'hui, là.
Vous avez été viré pour aller, pour quitter l'Ouest parisien.
Non, et après, ils m'ont fait faire un test d'intelligence, et ils ont considéré que peut-être je pouvais redresser la situation.
Mais vous avez quand même été viré?
Non, pas plus tard. Plus tard, ça c'était quand j'ai chanté "School's Out" en versant du vin sur les parents d'élèves et en déchirant les carnets. Et là, ça n'est pas passé. Là, j'ai exagéré.
C'est la limite.
Alors, quelle est la frontière entre le petit con au bahut et l'artiste génial? Non, mais franchement, si le réflexe de voir quelqu'un qui fait ça en disant oh, "Regarde-moi ce petit con, il respecte rien, il salit, il tâche, il insulte ou autre", ou alors c'est un génie, il est original et les sons.
Je pense que quand il y a eu le premier, donc il y avait la troupe du Splendid qui faisait des petites choses du théâtre. Nous, on faisait un petit concert de fin d'année. Et la première fois que j'ai fait, je suis monté sur scène et j'étais tellement timide que je suis resté dos tourné pendant tout le mini concert. Et le lendemain, tout le lycée parlait du punk qui était resté dos tourné.
comme une posture.
Comme une posture.
Trop bien.
Et c'est, vous voyez comme quoi des choses.
C'était écrit ça?
Hein?
C'était écrit ça que vous parliez.
Pas du tout. On disait c'était marrant. Il était dos tourné tout le temps. Il nous a même pas regardé une seconde. Ça, on aurait dit Bob Dylan à Bercy. Je l'ai vu aussi dos tourné tout le temps. Mais lui, c'est pas de la timidité.
Non, c'est clair. Quand on parle de la musique, de vos goûts musicaux, de téléphone, on parle des Who, on parle de Led Zepp, on parle des Beatles, on parle des Stones et de cette ressemblance physique entre Jagger et vous.
Si. Pas du tout.
Mais si.
Pas du tout.
Photo à l'appui. Il y a pas de débat.
Il y a que la bouche, mais enfin Jacques Brel aussi. De toute façon, il y a beaucoup de chanteurs à grande bouche.
Il y a des images dans le doc de Sophie Le Sage, on va en parler, où il y a une véritable ressemblance. Et puis surtout, les fans voulaient cultiver cette ressemblance. Mais il y a un groupe dont on parle.
Moi,
jamais.
J'étais plus Jeff Beck parce que j'étais pas chanteur au départ. J'étais guitariste. Jeff Beck, il y avait pareil, l'acné, tout ça, c'était bien.
Non, il y a un groupe dont on parle jamais. Et pourtant, j'ai le sentiment que ce groupe a eu une influence, en tout cas dans sa musique. Qualité sur votre manière de jouer, de créer les tubes de téléphone.
Les musclés.
C'est Police. Non, c'est Police.
Oui, Police est arrivé un peu en même temps que nous.
C'est ça.
Déjà, rien que dans le choix des noms, télévision, Police, téléphone, des espèces, une matérialité qui est arrivée à quelque chose d'un petit peu plus dur.
Et un son qui venait un peu chambouler aussi les habitudes du rock.
Bob Marley qui arrivait, donc quelque chose, on regardait le reggae avec énormément d'admiration. Et il y a aussi une période avant, progressive rock, qui a généré le punk derrière, où il y avait des groupes qui devenaient très académiques, mais nous, ça nous faisait bosser, quoi, les groupes comme Yes, Supertramp, ça devenait très technique, les mecs faisaient des petites mini-symphonies, et le jazz rock arrivait aussi, et il y avait des choses bien, il y a un album de Billy Cobham qui nous a beaucoup influencé.
Qui passe au New Morning, là, de la semaine prochaine, je crois. Ou dans
Billy?
Ouais, Billy Cobham.
Ah, j'y vais.
Ah non, mais c'est le meilleur, le meilleur batteur du monde.
Et sur le moment...
Oui, mais en mieux.
Et sur le moment, vous vous rendiez compte de tous ces courants musicaux, de toutes ces influences, parce que j'ai l'impression que rétrospectivement, on peut faire une sorte de petite histoire de la musique, mais aujourd'hui, si on regarde la musique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la musique aujourd'hui? Des venues, je sais pas, des retours de la guitare,
c'est foisonnant, mais déjà, oui, c'est ça. Il y a donc des jeunes enfants qui font le solo de Jimmy Page, c'est Way to Heaven, exactement, note pour note, même la fausse note, ils la font.
Ouais.
Donc ça, c'est le côté académique de la culture. Là, maintenant, tu te dis, avoir des gens avec des pompes de chrétiens de gauche et des des pantalons en velours côtelé, la pipe qui veut dire depuis les Beatles c'est rien nu. Mmh, et quand j'étais petit, on disait les Beatles ils chantent faux quoi. Ouais. Donc il y a toujours un espèce de couvercle qui se met dessus. Mais à l'époque de Stockholm, j'étais dans un squatter de rappeurs à Stockholm justement, et je voyais des gars qui ne connaissaient pas une note de musique et qui maniaient des samples et tout ça. Et j'étais fasciné parce que je me suis aperçu que eux, ils avaient une oreille quoi. Et en fait, quand t'as de l'oreille, de l'amour pour la musique et que tu passes des heures et des heures et des années, il n'y a pas de raison que tu sois moins bon que Mozart ou Bach, finalement, mais d'une manière différente, sans connaître le langage occidental de la musique écrite.
Mmh. Billy Cobham en concert le 1er novembre au New Morning. C'est juste... Sophie, le sage nous a rejoint. Bonjour Sophie, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes documentariste et réalisatrice d'un doc que j'ai adoré, consacré à Jean-Louis Aubert, où vous tentez cette aventure folle de raconter le personnage, mais de sa naissance à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous...
Oh, j'ai eu peur.
C'est pas fini. C'est pas fini.
Ça commence.
C'est pas fini. Après avoir fait ce travail, d'abord, ça vous a pris combien de temps pour le réaliser, ce doc?
Il y a eu...
Il va falloir répondre un tout petit peu plus vite, hein, Sophie.
C'est un an de travail.
Un an de boulot.
Un an,
okay. Oh, plus un an de travail ça. Entre... Ouais.
Oh là là, vous pouvez pas savoir la force de caractère de
et
cette personne.
C'est la démarche d'une curieuse, d'une fan, d'une admiratrice. C'est la démarche de quelqu'un qui voulait comprendre un phénomène.
Oui, enfin un peu tout ça. Moi, j'adore réaliser des portraits et surtout d'artistes. Et ça faisait un moment que j'avais en tête de faire un film sur Jean-Louis Aubert parce que j'ai toujours écouté ses chansons depuis que je suis toute petite.
C'est la bande originale de nos vies. Voilà,
même si je fais pas partie de la génération téléphone parce que
et
je suis née un peu après.
T'as un problème avec la génération téléphone.
Merci, bonne journée. C'est quoi cette histoire?
Non mais attends, on l'invite et elle nous insulte.
T'as vu ça? Oh le culot.
Mais non, mais j'ai eu un vrai déclic au moment du confinement. Et en fait, ce projet, il date du confinement en 2020. D'accord. Et en fait, Jean-Louis organisait des petits concerts sur les réseaux sociaux au quotidien. Et moi, je les suivais.
Avec sa maladresse de pas trop savoir comment ça fonctionne.
Voilà.
De dire bonjour, de reconnaître les fans qui arrivent.
C'est ma maladresse, c'est tout mis en scène.
Arrête avec tes formules du sud. Est-ce que votre regard sur Jean-Louis Aubert a changé? En quoi a-t-il changé entre ce que vous imaginiez avant de faire le doc et un an ou un an et demi après?
Moi, j'imaginais déjà quelqu'un qui est l'image qu'on a un peu de lui dans les médias, quelqu'un de très positif, de très réfléchi et de très humain.
Ah, la déception, du coup.
Non, justement, quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'est marrant parce que j'ai eu l'impression de le connaître depuis longtemps.
Oui.
Parce qu'en fait, il est égal à lui-même tout le temps et il met à l'aise très vite.
Il s'est livré facilement parce qu'il a toujours comme pirouette justement la vanne, la blague pour se sortir d'une situation un peu ou trop émouvante ou un peu gênante.
Ça met du temps, en fait, il met du temps avant de faire confiance à Jean-Louis, parce qu'il parle beaucoup comme ça en interview, mais avant de vraiment se livrer intimement et d'ouvrir les portes vraiment de son intimité, en studio. Il voulait pas faire de documentaire au début, il était un peu réticent.
Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre doc et qui m'a fait réaliser l'importance de cet élément dans la vie et dans l'œuvre de Jean-Louis, c'est l'eau. Elle est très présente, cette eau. Il y a beaucoup d'images, même sous-marines, vous le filmez en train de nager sous l'eau, vous le filmez au bord de l'eau, vous le filmez avec la vague, l'horizon, en créant merveille aussi. Il vit au bord de l'eau, il vit dans un moulin. Quels sont ses rapports à cet élément? Ça veut dire quoi pour vous?
Il le dit très bien que pour lui c'est un être aquatique et qu'il a une vision de la vie un peu comme justement comme les vagues quand on est transporté, il prend une vague, il la prend et il navigue avec le mouvement de la vie en fait.
Qu'est-ce que vous attendez de Jean-Louis Aubert faire un
comment
autre.
Comment ça?
Bah, la suite pour vous, elle est quoi? Elle est où? Elle est.
Bah oui. C'est-à-dire que j'avais une telle matière.
Il n'est pas fini.
Bah oui, mais c'est surtout que j'avais une telle matière. Voilà, je l'ai suivi quand même pendant plusieurs mois, pendant toute la création de son album.
Vous le suivez pour la reformation de téléphone?
Pardon ?
Vous allez le suivre pour la reformation de téléphone.
Ou des insus ?
Bah ça, il a. Ça a déjà été fait en 2017 et c'est abordé dans le documentaire, donc non. Mais en tout cas, sur sa tournée, en fait, je suis en train de tourner un deuxième documentaire avec Jean-Louis.
Bah voilà.
Parce que justement, l'aventure ne pouvait pas se terminer là. Parce qu'il a dit tellement de choses que je n'ai pas pu mettre en 100 minutes et c'était déjà très, très compliqué.
Bon, il y a des choses quand même qu'on ne va pas mettre du tout.
Sincèrement, bravo. Sophie, pour ce doc, c'est une réussite. Et même quand on croit connaître Jean-Louis, on continue de découvrir des choses. C'est en replay accessible à tout moment pour les abonnés de Canal, c'est ça, sur la plateforme de Canal.
J'aime pas les miroirs, mais c'est un magnifique regard.
C'est réussi.
Ce n'est pas un miroir.
Voici un enfant perdu. C'est Bruno Pecky.
Salut tout le monde,
salut,
ça va?
Salut!
Ça va bien?
Ça va bien et toi Bruno?
Ça va bien, oui. Merci Léla, la seule qui s'intéresse à moi. Alors, après les vinyles, les Polaroids et Michel Barnier, il y a un nouveau truc vintage qui revient à la mode. Alors non Daniel, arrange ton 3310 et les sexos qui vont avec.
Merde.
Parce que je veux vous parler des baptêmes.
Ouais, j'ai eu chaud.
Ouais. T'inquiète Jean-Louis. Ces 4 dernières années, l'Église catholique a observé une augmentation de 112% de demandes de baptême chez les ados et les jeunes adultes. Plus 112%. Le seul truc qui a eu autant d'augmentation, c'est la dette publique et les départs d'humoristes chez France Inter. Bon, le plus choquant, c'est que ce soit chez les jeunes. Hein, parce que renouer avec sa foi, normalement, c'est un truc de vieux qui pense que le prochain arrêt, c'est le terminus. Donc t'achètes un ticket au cas où il y a un contrôleur. Mais là, comment expliquer ces chiffres? Eh ben, les journalistes et les sociologues n'y arrivent pas parce que le phénomène est trop récent. Mais comme je suis ni journaliste ni sociologue, je vais quand même le faire. Bon, déjà, l'augmentation du prix de l'électricité. Bah ouais, le baptême, ça reste un moyen de se laver les cheveux sans payer l'eau chaude. En plus que les prêtres fassent notre lessive, on se mettra en coloc avec eux, quoi. En plus, c'est pratique si t'as mon âge, hein, un seul lit suffit. Ensuite, la messe, là aussi je comprends que ça attire autant les jeunes. Du vin bon marché et un biscuit sec par personne, ça ressemble à pas mal de nos apéros, quoi. Et bon, venir une fois par semaine écouter un vieux pendant 1h30, perso j'ai l'habitude, je suis chroniqueur dans la bande originale. Oui, alors non, Jean-Louis Aubert, je ne parle pas de vous, mais de mon patron, le père Nagui. Je précise parce que j'ai plus peur de perdre le respect de l'invité que mon travail. Ouais, j'ai vraiment cru ça, moi.
Ça tombe bien.
Tu peux avoir les deux.
C'est la duplette. Autre truc qui fait kiffer les jeunes. Jésus-Christ. Comme dirait le pape François, le J, c'est le C. Bon, c'est quand même dingue que Jésus plaise autant aux jeunes, alors que de son vivant, il a fait une très mauvaise carrière d'influenceur. Ah bah Jésus, à l'époque, c'était seulement 12 abonnés, dont un qui l'a signalé, quoi. Bon, aujourd'hui, il aurait fait un documentaire pour raconter comment il a réussi à marcher sur l'eau, il aurait fait les mêmes scores qu'Inox Tag. Je critique le début de carrière de Jésus, mais en vrai, sa longévité, elle est folle. 2000 ans qu'il est mort, et on fête encore son anniversaire, plus sa mort, plus sa résurrection. 2000 ans! Franchement, un jour, faudra qu'on pense à faire le deuil, les amis, quoi. Déjà, quand les parents font les anniversaires de leur bébé chaque mois, c'est casse-couille. Alors, 3 fois par an pendant 2 millénaires, même lui d'en avoir marre qu'on le dérange aussi souvent, quoi. Je pense qu'à force, il se retourne dans sa... Ah non, il peut pas. Bref, revenons au baptême des jeunes et à la raison la plus évidente de leur augmentation. Ils ont lieu à Pâques. Juste avant les partiels. Voilà. Je dis pas que les 112% d'augmentation, c'est ceux qui ont rien foutu de leur année et espèrent un miracle, mais c'est sûr qu'il y en a qui veulent juste pas redoubler, quoi. Quand t'as le choix entre te taper un an de révision en 3 jours car tu préférais boire des verres qu'aller en cours ou demander de l'aide à Dieu, bon bah baptême express, hein. En revanche, ce qui peut étonner, c'est qu'autant de jeunes adhèrent au catholicisme alors que dernièrement, il y a eu des scandales à répétition. Mais vous savez qui a dit la fameuse phrase « N'importe quelle publicité est une bonne publicité » ? L'abbé Pierre, voilà, encore un truc qu'on pensait pas qu'il avait fait. Mais là aussi, il y a une vraie explication. C'est que ma génération a grandi dans un monde où il y a toujours eu des dingueries qui se passaient dans l'église. Et malheureusement, je parle pas de miracles. Ce qui fait qu'on est tellement habitué que le clergé fasse de la merde qu'on est là, ouais, mais c'est le clé-clé. Et en fait, la véritable raison qui explique pourquoi autant de jeunes se tournent vers la foi, c'est l'anxiété ressentie face au monde moderne. Ouais, là, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est l'historien Charles Mercier. Pour ça que c'est pas drôle. Chacun son job. Hein. Charles, il fait des analyses étayées. Moi, je fais des vannes sur l'abbé Pierre. Voilà. Quand tu dis que pour se sentir bien, on doit se tourner vers des trucs qui date de 2000 ans plutôt que vers le présent ou l'avenir, c'est que vraiment, vous nous avez laissé un monde pourri, quoi. Mais inspirons le nom de ces jeunes et de Philly Winter et gardons la foi. Peut-être que cette nouvelle génération va rénover l'église et la rendre plus inclusive, notamment en se rendant compte enfin que Dieu est non-binaire. Bah oui, vu que Dieu est ni un homme ni une femme, Yael est non-binaire. Voilà. Et asexué, vu que ses voix sont impénétrables. Donc on pourra renommer le Notre Père par le Notre Parent 1. Bon, pas sûr que le Vatican me propose un taf après cette chronique, donc je vais aller en Indé et lancer ma propre religion. Je vous propose pas une messe tous les dimanches, mais un rendez-vous tous les mercredis qui s'appelle La drôle d'humeur de Bruno Pekin.
Mais oui.
Merci. Tanguy Pastoureau, de quoi allons-nous parler dans la dernière demi-heure ?
Je vais vous parler des singes, nos cousins tout nus. Quelle chance ils ont de vivre comme ça. Une étude révèle qu'ils sont capables d'humour. Vous vous rendez compte ? Ça ouvre des perspectives pour nous.
Le meilleur de la bande originale, c'est reparti avec notre invité, aujourd'hui Leïla.
On l'aime d'amour, c'est Jean-Louis Aubert.
Oh, quand tu dis ça, Leïla, on a l'impression que t'es une femme fidèle. C'est dingue.
Le nouvel album s'appelle Pas fini. Premier single Merveille, il est également sur cet album.
C'est quand ça commence. On a parlé liberté, égalité, fraternité. On a parlé d'humanité, on a dit qu'il faudrait s'aimer. On a parlé de la planète, fatiguée de nous porter, nous voir paraître ou disparaître.
Faut mettre la chanson en ancien.
Sincèrement, j'avais presque envie de la laisser en entier parce que elle est particulière aussi cette chanson.
Oui, le chanteur il dit tout de suite on a trouvé ça banal, peut-être pas vraiment vendable. Et en fait ça parle de tous les repas qu'on a fait ensemble, où on a refait le monde. Et peut-être la manière dont on vit en ce moment, nous l'Occident, c'est un gros repas, un gros festin.
Ouais,
et on a des super idées.
La manière dont on digère ou pas l'actualité aussi, parce que est-ce que vous êtes un bouffeur d'actu ? Est-ce que vous lisez les journaux, les infos, la radio ?
Ouais. Je suis actualité, c'est comme un film. Et je regarde beaucoup les gens passer dans la rue aussi. Et des fois, ils viennent aussi me parler. Et je crois que beaucoup d'hommes politiques devraient faire ça. Parce qu'on voit la forme des corps au regard. D'ailleurs, je pense qu'aucun homme politique n'a autant changé la société ces 20 dernières années que la technologie. Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans la rue.
Et la musique, les arts sont politiques ?
Être ensemble, c'est politique, ouais. Les arts nous mettent ensemble, dans le meilleur des cas. Mais enfin, la musique n'est pas morale. Hein. Elle a fait marcher beaucoup d'armées. Hein. Vous en faites pas.
Non, mais elle peut aussi ouvrir. Oui. Elle peut aussi ouvrir des.
S'adapte. C'est juste marcher ensemble. Je pense que à la préhistoire, c'était marcher et travailler ensemble. Je suis sûr que les premiers rythmes, c'était des gens qui tapaient sur du grain et ensemble. Puis tout d'un coup, ça fait un rythme. On le fait tous ensemble. Et...
Ouais, mais même quand on emploie des expressions comme le cœur bat la chamade, c'était un rythme de tambour militaire.
Bien sûr. Avant, on envoyait des jeunes tambours de 12 ans à l'avant des armées pour que les mecs avancent, quoi.
Lorsque vous composez des titres comme on est en train de préparer une tournée, on est en train de faire chanter des stades, on a envie que ça soit...
Oui, il y a ça d'un côté, mais il y a aussi le fait de se jeter
à l'eau.
Moi j'aime beaucoup sauter des rochers, et en fait, quand je rentre sur scène, parce que je suis un tracker, et ça c'est vraiment pas passé avec le temps, c'est de pire en pire, et en fait, j'ai l'impression de sauter dans le vide. Et après, une fois que j'ai sauté, que je suis devant vous, j'essaye de faire le mieux que je peux.
Et quand on fait un album, on saute aussi dans le vide, au moment où il faut l'arrêter. Et même s'il n'est pas fini, il faut qu'il sorte. Est-ce que vous êtes du genre à revoir des chansons, des mix et voir des textes plusieurs fois sans jamais être totalement satisfait de la finalité?
On me l'arrache des mains, mais j'ai besoin des autres à un moment pour mettre ça en place. C'est comme tirer la photo, quoi. Je parle de l'argentique.
Est-ce que à l'inverse, vous revenez peut-être à la, au premier mixage ou à la première mouture en disant finalement c'était pas si mal et le fait d'avoir trop travaillé dessus, ça,
fait,
ça a perdu son essence.
Tout à fait, et quelquefois, à chaque étape c'est une course de haies, mais la vie en est une aussi, et on peut perdre l'élan de départ. Et l'élan de départ, c'est ce qu'il y a de plus beau dans une chanson, et aussi dans un voyage, dans ce qui nous fait marcher. Et Alter Ego, la chanson, je l'ai réécrite pendant 2 ans pour essayer d'avoir l'air intelligent. Et après, je suis revenu à la première version parce que c'était pas du tout une histoire d'intelligence, c'était une émotion. Mais j'étais con. Mais le voyage était bien parce que ça m'a permis de me dire, eh ben, ce truc assez simple et spontané, eh bien, il est mieux que tout ce que t'as fait avec ta raison.
Jean-Louis Aubert jusqu'à midi et demi, notre invité. Voici Tanguy. Vas-y.
Vous savez, j'ai pas toujours été cet homme solide, endurant, plein de confiance en lui, sur lequel on peut compter. Ne riez pas. Non, quand j'étais jeune, j'étais timide. Jamais j'aurais osé entrer dans un sex shop pour acheter une tenue de cuir quand j'avais 9 ans. Hein, encore moins acheter du shit à 4 ans et demi. J'étais timoré, effacé, jusqu'à un âge avancé. Exemple, il y a quelques mois, France 3 m'a suivi en Bretagne à Carantec, où j'ai passé plusieurs étés à travailler, notamment dans une crêperie. Et je me disais, ils vont me vénérer, ces enfoirés, avec la carrière que j'ai quand même fait 2 fois, c'est à vous. Ok, une fois juste le dessert, et une fois j'étais pas filmé. C'est moi qui ai débarrassé l'assiette de Pierre Lescure. Mais quand même, quoi. Donc j'arrive sur la plage, en faisant semblant de parler au téléphone à Nagui, je crie « Ouais, mon petit Nagounet, je sais que t'es habite de conseil, mais là tu tombes mal, je suis super occupé. » Bon, en réalité, à me regarder, il y a 3 Parisiens sous la flotte qui se disent « L'été prochain, on va à Saint-Raphaël. » J'entre en vainqueur dans la crêperie, suivi par le caméraman, comme dans Gladiator, quand le mec voit 4 lions et 16 chrétiens courir vers lui et qui se dit « Je vais les éclater, ces branlos. » 2 semaines que je prends de la spiruline en poudre, je suis Leïla Kadour. Dans la crêperie, je crie « Purée Loïc, ça fait plaisir. 2 semaines. Non, je suis plus du tout. Ça fait plaisir. Allez, tournée de crêpes. Jambon, vous payez l'œuf, je paye le jambon. » Et là, les mecs ne se rappellent pas du tout qui je suis. Je vois qu'ils cherchent. Hein. Ils se disent trop vieux pour être Harry Styles, trop jeune pour être Martine Aubry. Mais ils sèchent. France 3 a donc passé le reportage, mais dans le cadre de leur semaine de la loose, j'ai fini premier devant le portrait d'un pêcheur en mer qui s'était fait embrocher par l'anus par un espadon. On n'a jamais pu les séparer. Il a fallu les marier pour consoler les familles du pêcheur et de l'espadon, qui sont des êtres sensibles, hein, les poissons. Je le dis dans le cas où, pour remplacer les vaches à Interville, Nagui, vous penseriez à foutre des requins blancs dans la piscine de l'équipe de Valenciennes. En fait, j'ai du mal à rester dans la mémoire des gens. Même moi, parfois, je m'oublie. Je me vois le matin dans le miroir de la salle de bain et je dis « Alors, si vous êtes le livreur des Deliveroo, faut m'expliquer comment vous êtes entré. » Et puis, ils prennent des blancs qui sortent de la douche maintenant, chez Deliveroo. Bon, en fait, je suis invisible. Parce que des types bruns de taille normale qui s'habillent classique, il y en a 20 millions. Hier, Léa Salamé m'a dit « Ah, monsieur Retailleau, on vous attendait. » J'ai pas osé démentir. Je me suis retrouvé en interview dans le 7-10. Salamé m'a dit « Parlons de la drogue. » J'ai répondu juste le week-end. J'ai vu que c'est pas cette réponse-là qu'elle voulait. Je sors du studio, un mec du service des sports s'écrit « C'est pas vrai, Djokovic. » J'ai parlé de tennis pendant 1h30. Daniel Morin, lui, il a un physique spécial. Ce côté survivaliste des forêts du Montana qui mitraille des photos de Joe Biden fait qu'on le reconnaît, mais moi, non. C'est pour ça que j'ai choisi l'humour pour me distinguer. Et ça marche. Enfin, j'ai mon petit public. Voilà, ça m'a permis d'exister et de vaincre cette timidité. Aujourd'hui, le sex shop, je pourrais y entrer. Mais pour faire quoi? J'ai fait 15 ans de télé avant MeToo. J'ai plus rien à découvrir. Parfois, je vois 2 types se frapper avec des masses d'armes en latex. Je dis, tiens, ça me rappelle les conférences de rédac de C8. Et je pleure. Et moi, je pense qu'on ne devient pas humoriste si tout va bien dans sa tête. Prenez Tristan Lopin. Non, trop gros dossier. Lisa Del... Non, pareil, j'ai pas peur. Bon. Et je pense aussi qu'écouter des humoristes soulage. Parce que parfois, ils mettent des mots sur des idées qu'on n'arrive pas à exprimer soi-même. Je me souviens de Daniel me disant ce sketch, le lâcher de salope. Ça dit tant de choses sur les femmes. Hein, on était au hammam et j'avais perdu ma serviette, donc je pouvais pas fuir, mais j'en rêvais. Et hier, j'étais sur Internet en train de faire un virement de 3000 euros à cette Française coincée au Nigeria à qui on a volé son sac. Une histoire folle, hein, mais grâce à moi, elle va pouvoir rentrer. Je l'ai eu au téléphone et m'a dit « Merci, elle doit fumer pas mal. » Bon. Quand soudain, j'ai vu un article du magazine Le Point intitulé « Les singes ont-ils de l'humour ?» Ce qui ouvrirait des perspectives folles pour nous. On pourrait monter un plateau d'humoristes aux eaux de Vincennes, devant l'enclos des babouins. Eux, au moins, ils s'amusent. Et vas-y que je te monte mon cul, c'est l'ambiance des fêtes de Bayonne, mais sans l'alcool. Alors l'article, je résume parce que les gens n'écoutent pas cette émission pour apprendre des choses. Hein. Dans 4 minutes, il y a déjà le quiz culture de Leïla. Ça va, on n'est pas sur Arte. Bon, une étude a été menée sur des grands singes, orang-outans, gorilles et bonobos. Vous savez, ce sont ceux qui s'accouplent pour apaiser les tensions. Heureusement qu'on ne fait pas pareil, parce que la frontière entre Israël et le Liban, en ce moment, ce serait une orgie. Et cette étude révèle que les singes sont capables de déconne. Et ils ne font pas de vannes, bien sûr, mais par exemple, ils sont capables d'agiter un objet devant un autre singe, et au moment où celui-ci cherche à l'attraper, hop,
il le retire. C'est la base de l'humour. Ouais. Hein, mon premier spectacle, c'était ça sur 1h20. Ça n'a pas marché des masses. Bon, les singes pour rire peuvent aussi se tirer les poils. Pareil, chez nous, ça se fait plus trop. Même Tristan Lopin, qui a une belle barbe, d'où c'est fourni. On a envie de vivre dedans. Et bon, bah, personne ne lui a tiré, parce qu'aujourd'hui, il y a cette notion de consentement qui gâche la moitié des gags. Hein, il faut paraffer un contrat avant tout acte, joue sous-signé, gna-gna, certifié être volontaire pour la pratique d'un chabit, avec Messier Sanchez et Martin, dans le cas d'une soirée boomer qui, le lendemain matin, nous laissera sans doute un souvenir amer, date, lieu, signature, et c'est tant mieux tout ça. Bon, bref, les singes en sont donc à explorer actuellement les racines de l'humour. Pour l'instant, ok, ça ressemble à du harcèlement, mais bon, 4-5 ans à tourner dans les comedy clubs et les bars à chicha, et ils vont plier le game. Bref, j'ai envie de dire, ou plutôt, merci de m'avoir écouté, comme disent les autres.
Merci. La bande originale continue juste après Billie Eilish, Birds of a Feather. Bird of a Feather. Eilish dans la bande originale de Jean-Louis Aubert, notre invité. Canda et Barbara.
Mais il n'y a pas plus rock que ça, que Gainsbourg et tout ça. La gueule de qui on se fout là.
Vous dites même dans le doc justement dont on parlait tout à l'heure que Barbara était plus rock que vous.
C'est ce qu'elle me disait, en tout cas. Mais évidemment, Gainsbourg... mais j'imagine que Rimbaud et peut-être Mozart aussi, hein, pour voir à quel âge ils sont morts. Hein, et dans quel état.
Ouais, non, mais c'est ce que j'allais dire aussi. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... Alors, je sais pas
si... Non, mais c'est la culture, ce qu'on appelle maintenant. Évidemment, il y a des mômes qui font, pour faire plaisir à leurs parents, ont une guitare plate avec des bouts pointus et des pantalons très serrés et qui vont vous chanter du AC/DC. Mais ça y est, c'est de la culture, là. On est bien dans le truc, mais donc... Il vaut mieux aller voir des gars qui font du folk, qui vont vous surprendre, ou de l'électro-folk, ou aller écouter Phoenix, ou je sais pas quoi. Hein.
Le rock'n'roll, c'était aussi un...
Ou les Creels, là, le groupe d'Eliott qui a fait l'album avec moi. Ben ils sont déments, ces mômes. Et eux, ils ont fait le conservatoire, l'ordinateur, ils savent tout. Et en fait, on se rejoint, parce que moi, j'ai commencé avec les vrais instruments, et je suis un peu comme ça, en admiration devant ce que donnent les machines. Et eux, ils sont commencés par les machines et maintenant ils me disent non, mais les instruments, regarde ce que ça donne, et c'est super cette rencontre.
Les excès du rock'n'roll dans les années 70, 80.
Il n'y en a pas eu. La drogue était un milieu très bien avant que le sport s'en mêle.
Et si vous avez un poste pour moi ici.
À part la sortie de l'album de Jean-Louis Aubert, d'autres événements, Leïla.
Oui. On cherche en fait un phénomène sociologique de plus en plus fréquent. Écoutez ces chiffres. En 1981, cela représentait 1% des naissances. En 2022, c'est 6,5% des naissances. D'après vous, je parle de quoi ?
Les hamsters ?
Non, je parle bien de bébés. En 81, ça représentait 1% des naissances. Non, c'est pas le lieu, mais c'est intéressant aussi. En 2022, c'est 6,5%. C'est en lien avec notre société,
le fait.
Pas non plus.
Les HPI,
les enfants prématurés.
Non plus, pas prématurés. C'est plutôt en lien avec une évolution et le fait que la vie est plus longue, donc on prend peut-être plus de temps.
Ah, ils sont bébés de vieux.
Voilà, de vieux, non, mais.
Bébés de vieux.
Être mère à plus de 40 ans. Ouais. Voilà, des grossesses. Voilà, l'âge de la maternité, en fait, a reculé depuis les années 70 pour plein de raisons, parce qu'on a accès à des méthodes de contraception déjà, à l'IVG et tout ça. Et aussi, donc c'est passé de 26 ans à 31 ans, en gros. Il y a un super article dans le journal La Croix d'Alice Le Dréau qui nous explique qu'en fait, voilà, depuis 2022, on enregistre de plus en plus de grossesses dites tardives, qui sont bien sûr suivies médicalement de façon beaucoup plus sérieuse, qui déclenchent aussi socialement beaucoup d'incompréhension. L'argument principal de plein de gens, c'est de dire à ses parents plus âgés qu'ils sont égoïstes, parce qu'on considère que la parentalité, c'est accompagner l'enfant jusqu'au bout de sa vie. Je trouve que c'est un argument un petit peu limite. Il y a plein d'avantages à avoir des parents vieux. Et d'ailleurs, dans l'article, ils sont cités aussi.
Bon, mais 40 ans, pour, ça peut être dangereux en termes de santé, mais maintenant, tout est contrôlé.
Pour les femmes, hein, 40 ans, plus de 40 ans pour les femmes.
J'entends,
c'est des chiffres
que je donne. Ce qui est plus problématique, c'est quand c'est un papa de plus de 70 ans, et là, en effet, tu peux avoir des remarques désobligeantes.
Oui, alors là, c'est même les femmes qui ont plus de 40 ans qui se voient taxées d'être égoïstes, parce qu'on considère que tout d'un coup, ne pas avoir fait son enfant à 26 ans, c'est sûr que tu ne l'as pas fait à 26 ans, ça te prive potentiellement d'un certain nombre d'années, mais enfin, tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, et tu peux mourir à 27.
T'étais pas prêt. Ce qui est très rock'n'roll, mourir à 27.
Petit clin d'œil à Jean-Louis. Donc oui, non, où t'étais pas... Non, la musique...
Faut qu'on fasse un hommage.
Non, dis pas ça, c'est horrible.
Je vais pas...
Tu veux dire un truc ?
Disparaître à soi-même en étant vivant, ça aide.
Ouais. Ça
c'est pas mal. Je vous laisse.
On va réfléchir là-dessus. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà, le temps de vie s'allonge. On fait des choses sans doute plus tardivement parce qu'on a plus le temps, parce qu'on en a davantage envie, parce que c'est la vie, tout simplement. Tout ça, c'est un appel à la vie. Continuer à avancer dans les années, Jean-Louis Aubert, c'est quoi la plus belle chose qui arrive quand on continue de vieillir ?
Qu'est-ce que vous aimez en vieillissant, finalement ? Qu'est-ce que vous aimez chez vous ?
Qu'est-ce qui est chouette ?
Ah, moi, j'aime bien. Parce que d'abord, je suis pas quelqu'un qui a de regrets ni de nostalgie. Oui. Donc, il y a aucun moment, j'ai bien vécu les autres moments. Mais il me semble que c'est la période la plus heureuse de ma vie. J'ai quand même un avantage.
Une sérénité que vous n'aviez pas quand vous étiez
jeune. Oui, j'ai un avantage par rapport aux autres, c'est que j'ai toujours eu mal quelque part.
Vous savez ce que ça change pas.
On se débarrasse de quoi? Moi, je me dis parfois, quand je vois des personnes âgées dans la rue qui marchent tranquillement, plus âgées que moi en tout cas, je me dis, ah, ils sont peut-être débarrassés d'une forme de, je sais pas, d'inquiétude, de, oui, c'est de, ça, d'ambition, de réussite.
La quête est peut-être un peu moins forte aussi, ouais, mais il y a peut-être, j'arrive quand même à déconnecter mon inquiétude quelques secondes plus facilement.
Oui.
Ça doit s'appeler une certaine sagesse, tout d'un coup.
Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrai.
Jean-Louis Aubert est notre invité.
Tu viens la nuit au fond de mon puits comme une chanson qui guérit.
Et c'est ce qui fait cet album, ouais, il fait du bien. Il s'appelle Pas fini et il partira en tournée, Jean-Louis Aubert, à partir de février prochain. Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, déjà désolé pour les Daft Punk qui ont enfin compris pourquoi Jean-Louis Aubert faisait de la musique avec leurs idées. Le coupable, c'est le manager Pizzaiolo qui les donne à Jean-Louis Aubert entre deux grappins. Cazzo.
Est-ce qu'elles sont bonnes au moins les pizzas? Parce qu'on ne sait pas si les pizzas sont
graves.
Bah, s'il y retourne.
Il retourne pour la musique, mais pas pour les pizzas.
Mais désolé pour les fans d'Old Dolaf maintenant qui ont découvert ce matin que leur idole était capable de faire du bon, du beau, du produit, du bossé, du sérieux, du consciencieux. Mais qu'est-ce que tu fous dans cette émission, Cornuto? Désolé pour tous ceux qui ne croient pas en l'aspiration dite cuite au feu de bois. Bah, Jean-Louis Aubert vous a mis une bonne claque avec son parcours. Je résume. Calzone. Ah voilà, je vais écrire ça. Maintenant, Regina.
Bah arrêtez.
Ah voilà. Et tiens, il dit quoi ce tiramisu? Luigi, l'addition. Et à demain pour la suite de l'album. Voilà, une leçon de créativité, 4 fromages. Allez, bon appétit toi.
Merci Daniel. Jean-Louis Aubert en concert le 14 février Aix-en-Provence, puis Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, tout ça à retrouver sur le site internet de Jean-Louis Aubert qui est blindé d'informations. Et le 9 avril, ce sera le rendez-vous parisien au Zénith. Merci Jean-Louis pour Pas fini, merci pour la visite.
Le 13 décembre à la U Arena.
Ah, je savais pas, j'avais pas la date.
Ben non plus.
Le 13 décembre, 25.
Ouais.
Ça va être la fête.
Okay.
Ah, dingue, alors
ça va
là.
Ouf.
50 ans avec vous. Ça
allez,
okay. Allez, go.
Très bien. Chouette. C'est noté. Génial. Merci Jean-Louis, porte-toi bien. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour 2024.
Oh là,
c'est pas vrai. Ça y est, on est arrivé au bout de 2024.
Merci Leïla. Ça y est, on est arrivé. Oui. Ouais. Oh, c'est pas été une année, hein. Ça sera mieux 25.
Ouais, ça va être bien 25. Ça va être bien. Ah bon, t'as aimé?
Ouais.
On vient demain.
Allez, oui, on est là demain.
T'es croyante?
Oui, et on se retrouve justement demain, même endroit, même heure. Pour commencer l'année en beauté, sexe avec Bérangère Crier.
Un spectacle bien dégueulasse, ma foi. Donc, fort réussi.
Passez une belle journée et une très bonne fin d'année à l'écoute d'Inter.